BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission, le club BFM Crypto. On est ensemble pour toute la demi-heure qui suit en direct. On va parler de réglementation MiCA, d'organisation des notaires sur les actifs numériques. Ça se structure tout ça et c'est une bonne nouvelle. On va parler de Bitcoin aussi dans des circonstances de conflit. On a commencé à en parler hier avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Mes invités aujourd'hui, Jonathan Herskovici est à distance, fondateur de Stackinsight. Depuis Biarritz. Bonjour Jonathan, ravi de vous avoir sur le plateau.
Bonjour Sandra.
Julie Bader, avocate au cabinet De Gaulle. Florence, bonjour.
Bonjour Sandra.
Julie et Gwendal Texier est avec nous, notaire et membre des notaires de l'Ouest. Bonjour,
bonjour Gwendal. Sandra.
On va parler effectivement de cette transformation du secteur. Ça avance, ça avance. Vous continuez à nous écrire. Vous savez, tous les jeudis entre 15h et 15h30, on répond à toutes les questions que vous nous posez sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. BFM Crypto, le club. C'est parti. Jonathan, vous êtes à distance, je commence par vous. On a commencé à l'évoquer ce sujet hier, le Bitcoin aujourd'hui à 72 000 dollars à peu près. Il est remonté avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Au-delà du prix, ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, c'est ce que montre cette situation en Iran ces derniers jours, c'est finalement la différence entre acheter du Bitcoin et détenir du Bitcoin. Et là, la distinction est importante dans ces temps de crise, dans ces situations, Jonathan.
Alors merci Sandra pour cette question et merci de me donner la chance de parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Stackinsight. C'est évidemment la détention réelle des Bitcoins et pas simplement une exposition au prix du Bitcoin. Et comme tout le monde le sait, depuis quelques semaines, on est rentré dans un conflit qui d'ailleurs risque de durer au Moyen-Orient, avec cette guerre en Iran. Et elle a plusieurs conséquences, évidemment. C'est évidemment les infrastructures locales qui sont coupées d'Internet, où on a vraiment des difficultés sur place. Et c'est là où on voit justement toute la différence entre détenir des vrais bitcoins, d'avoir la vraie propriété du bitcoin, d'avoir la possibilité d'échanger de la valeur de pair à pair, et ne pas justement dépendre d'une plateforme, justement une plateforme tierce où vous détenez, où la plateforme tierce détient du bitcoin à votre place. Donc c'est une vraie différence, et c'est dans ces moments de crise, de contexte géopolitique incertain que toutes les caractéristiques du Bitcoin, au-delà de l'exposition de son prix, prennent du sens.
C'est exactement ce qui s'est passé en Iran dans les chiffres ces dernières semaines. On a vraiment vu une distinction très claire.
Et oui, et donc ça, et on a eu des chiffres très très clairs. D'ailleurs, je ne sais pas si vos infographistes ont pu faire le visuel, mais effectivement, on a vu que entre le 28 février et le 2 mars, on a eu presque 10 millions de dollars qui ont été retirés des plateformes. C'est très intéressant. Après justement une période de coupure d'internet, donc on voit justement que c'est pas forcément le montant qui est intéressant, mais c'est le réflexe que ça révèle, dans un moment de stress extrême. Les personnes cherchent d'abord à sortir d'un intermédiaire pour reprendre la main directement sur leurs actifs.
On revient ici finalement à la base de ce que c'est Bitcoin dans ces situations-là et dans ces pays. Est-ce que vous voulez nous rappeler concrètement la différence pour les gens qui nous regardent ?
C'est vrai que on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai que c'est toujours important de rappeler les fondamentaux, la différence entre du Bitcoin papier. Donc évidemment, on a vu la mode des ETF ces dernières années, la mode des BTC Treasury Company, où en gros vous êtes exposé à la variation du prix, mais vous n'avez absolument pas les caractéristiques du Bitcoin d'incensurabilité, de désintermédiation, de profiter d'un système qui n'est pas connecté aux banques ou aux systèmes traditionnels. Là, nous, évidemment, ce qu'on recommande, encore une fois, depuis le premier jour, c'est Stackinsight, c'est la détention en réel de ces bitcoins. Donc, vous avez plusieurs types de wallets. Vous avez évidemment les wallets type Ledger, donc des hardware wallets qui sont une sorte de coffre-fort qui vous permet de détenir vos wallets en toute sécurité. Mais vous avez aussi des wallets sur vos téléphones, des wallets, des hot wallets, où vous pouvez justement utiliser le paiement en Bitcoin de manière plus pratique. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Iran, où en gros, vu qu'en plus le dollar évidemment n'est pas en odeur de santé là-bas, et le rial, donc la monnaie locale aussi, a été largement dévaluée ces dernières semaines, et peut-être que l'échange de valeur le plus approprié dans ces temps de guerre, c'est probablement Bitcoin, sachant qu'on peut l'échanger évidemment très facilement en quelques secondes, même si vous utilisez le Lightning Network.
Oui, là on n'est plus finalement sur un actif spéculatif comme nous on l'analyse en Europe. On est vraiment sur le contrôle de son argent et la survie réellement.
Bah, c'est ça, parce qu'effectivement en Europe ou dans les pays occidentaux, les gens s'intéressent principalement à l'angle spéculatif du Bitcoin, c'est-à-dire voilà, ça monte, ça baisse, on investit, on arbitre, donc on est plutôt dans une logique de trading, alors que justement, dans certains pays, Bitcoin est vécu de manière totalement différente. Lorsque la monnaie locale se déprécie ou que les contrôles se durcissent, sachant qu'Internet peut être coupé à tout moment, et c'est là où Bitcoin peut devenir justement un vrai outil pour conserver une partie de son épargne dans le temps, un moyen de transférer de la valeur, comme je le disais, ou tout simplement un moyen de ne pas dépendre des systèmes locaux. Et c'est évidemment là, ça dépasse largement le sujet de la spéculation, de mon point de vue.
Et là, ça devient géopolitique, Jonathan.
Voilà, c'est très important encore de le rappeler, c'est qu'on sort du cadre d'un actif financier classique, et effectivement beaucoup d'observateurs veulent ranger Bitcoin uniquement dans cette case-là, et effectivement on sort vraiment de cet aspect uniquement actif financier, parce que là justement Bitcoin devient vraiment un actif où on peut détenir de la valeur sans banque, transférer sans frontières, conserver justement en dehors du système monétaire national. Donc voilà, c'est aussi évidemment une question de rapport de force entre l'individu, l'État, les infrastructures de paiement, l'accès à l'information. Donc c'est là où Bitcoin est passionnant, et c'est là où on voit justement là, de mon point de vue, la vraie valeur du Bitcoin, c'est un peu dans ces moments de crise. Alors évidemment, j'aurais préféré que ce soit réalisé dans un autre contexte, mais c'est là où on voit entre guillemets la vraie valeur du Bitcoin.
Ouais, la force du projet. Après, ce à quoi il faut faire attention, une fois qu'on a dit tout ça, c'est que dans certaines crises, Bitcoin, ça sert à la population. En Iran spécifiquement, ça sert pas seulement à la population.
Ça sert évidemment aussi. Donc ça est là où il faut évidemment rester prudent. On ne sait pas vraiment justement comment le gouvernement utilise Bitcoin. C'est d'ailleurs tout le principe de l'anonymat ou du pseudonymat de Bitcoin. Donc il faut quand même rester méfiant par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que cette crise montre, c'est est-ce que j'ai du Bitcoin? Mais c'est plutôt, est-ce que je peux y accéder moi-même, ici et maintenant? Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale.
Ouais, c'est hyper intéressant d'analyser cette situation, aussi bien sur les cours que sur l'utilité. J'aimerais bien avoir votre avis à tous les deux, Julie et Gwenaëlle, parce que là, c'est vrai que souvent, nous, de notre petit plateau en France, on analyse Bitcoin comme, effectivement, un objet d'épargne, une réserve de valeur. Là, on revient vraiment aux fondamentaux. Ce n'est pas la même détention, ce n'est pas la même intention non plus dans cet objet-là. Gwendal.
Ouais, c'est pas forcément le même usage, en effet. Moyen de paiement, Bitcoin, moyen de paiement, c'est l'origine de Bitcoin. Hein. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pas si développé que ça, le moyen de paiement. C'est plus, en effet, un actif de réserve, de valeur, voire de transmission. Ça, c'est parce qu'on a un espoir que cette valeur sera importante, plus importante demain. Donc c'est un investissement, peut-être. Mais pas sous ce mode dépense.
Ouais, Julie.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans l'approche de la réglementation, Bitcoin est un produit spéculatif. Après, c'est vrai qu'on voit quand même quelques changements et quelques transformations où on voit que Bitcoin, la crypto-monnaie qui va vers les stablecoins aussi, enfin tout l'écosystème, se dirige vers les paiements. Donc peut-être que de nouveaux usages vont arriver au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est effectivement un outil spéculatif dans le monde occidental.
On va parler de tout ça, évidemment. C'était intéressant ce que disait Jonathan sur la détention. Et là, finalement, l'absolue nécessité de les détenir, ces bitcoins, quand on est dans des pays comme ça. En France, c'est un peu différent. On a le choix de le faire. On n'a pas les mêmes contraintes géopolitiques et économiques. Vous, de votre point de vue de notaire, vous en pensez quoi de cette détention et cette possession et de ce choix qui se pose aux Européens et aux Français, plus spécifiquement, Gwenaëlle?
De l'expérience qu'on a et des échanges qu'on a eus entre confrères, la manière dont les Français détiennent la crypto, c'est essentiellement sur des plateformes. Il y a peu de détention en self-custody. Alors, il y en a, mais on est plus sur des personnes hyper averties qui sont dans l'écosystème depuis assez longtemps. On voit les limites. Du coup, c'est l'exemple live de ce qui se passe en Iran, où les risques de censure sont forts. Donc peut-être que ça va susciter un éveil de conscience sur la manière dont on doit détenir ses actifs. Et l'offre que propose Bitcoin, elle est quand même hyper puissante, et mais ce qui est hyper exigeante aussi, puisqu'il faut être, avoir une certaine hygiène numérique, il faut mettre en place plein de protocoles, plein de process pour être...
C'est ce que j'allais dire. Hein. C'est, on le dit souvent dans cette émission, il faut se connaître en tant qu'investisseur, il faut connaître les risques qu'on prend, aussi bien si on laisse l'argent sur la plateforme, le Bitcoin sur la plateforme, que si on le détient nous-mêmes, parce que la responsabilité est entièrement transférée sur nous. D'un point de vue successoral, vaut mieux faire quoi ? C'est quoi la formule la plus intéressante ou la plus simple pour le détenteur de crypto ?
Il n'y a rien de simple. Hein. C'est, la formule la plus pertinente, c'est de préparer, d'anticiper. Celui qui achète aujourd'hui des actifs numériques, du Bitcoin, il doit mettre en place, en parallèle, tout un process pour s'assurer que si demain il ne pouvait plus être présent, il mourait ou devenait incapable, ben, ceux qui détiennent, ben, ses héritiers, puissent recueillir ces actifs-là. Donc dès les premiers achats, il faut penser à ça. Et ce n'est pas que penser, c'est agir derrière. Donc il y a plein de systèmes qui existent. Il y a aucun qui est universel, aucun qui est hyper performant. Il faut juste choisir l'outil et le protocole le plus adapté à soi-même et à ses héritiers. Soit on est full digital, soit on est plutôt papier ou pas si tech que ça, ou hybride. Bah, en fait, il faut mettre en place quelque chose. Alors c'est pas toujours simple. C'est pas toujours des solutions universelles, mais il faut mettre en place quelque chose.
Ça veut dire que, par exemple, on a des cryptos, du Bitcoin sur une plateforme, on fait quoi ? On écrit un testament, on prévient ses héritiers, on va voir un notaire. C'est quoi les différentes phases, par exemple ?
Alors, déjà, c'est recenser le patrimoine. Donc, si on a des actifs sur une plateforme, il faut que les héritiers puissent savoir que vous avez des actifs sur cette plateforme. Donc, il faut mettre en place, par exemple, un testament qui viendra indiquer que vous avez des actifs sur cette plateforme. Après, quand on le fait, il faut s'assurer que la plateforme a un service succession, a la capacité de répondre aux attentes en fonction de là où va être située la plateforme. Si c'est en Europe, si c'est dans un pays exotique, ce sera pas la même règle. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a beaucoup encore d'absence de plateforme d'échange d'informations. C'est souvent des chatbots. Il n'y a pas de service succession. Après, une fois qu'on a pu rentrer en contact, il faut que le service puisse reconnaître le droit du notaire, par exemple, qui va produire des documents et légitimement pouvoir récupérer les actifs pour le compte. Donc, il y a peut-être un choix de plateforme aussi à faire à ce moment-là pour s'assurer qu'elle est vraiment OK sur ces process.
Disons-le clairement, en tant que Français, il vaut mieux choisir une plateforme française pour la facilité de ces choses-là. Il y en a qui sont plus prêtes à la succession, justement, que d'autres.
Je pense qu'elles sont en effet plus
adaptées au droit français.
Voilà, elles connaissent le droit français. Le droit français va s'appliquer à elles. Donc, il y a une simplicité sur ce type d'acteur. Oui, ce serait sans doute un choix sur lequel il faudra s'orienter.
Vous vouliez revenir sur l'intérêt de la donation partage en nue propriété de Bitcoin à ses enfants. Alors déjà, moi, je voudrais savoir ce que c'est que la donation partage en nue propriété. Hein, déjà, qu'on se rappelle un petit peu ce que c'est que cette règle et cette façon de faire. Et puis après, vous nous parlerez de l'intérêt.
Alors, il faudrait une heure, en fait, pour vraiment tout détailler.
On ne l'a pas réellement.
J'ai bien compris. l'idée, c'est de pouvoir considérer en fait que Bitcoin, c'est comme un autre actif. Donc, ça rentre dans le patrimoine comme un bien immobilier et on peut transférer cette propriété de la même façon. Mais ça se prépare, ça s'organise pour que ça se passe bien. Il vaut mieux l'anticiper, donc faire les choses de son vivant, plutôt que de subir et laisser les enfants gérer ça plus tard, une fois qu'on n'est pas là.
Ouais.
Et l'intérêt de faire une donation partage de Bitcoin, donc il faut plusieurs enfants, je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'une personne, prendre Sylviane, a trois enfants, Marine, Enzo et Inès, et elle veut transférer de la propriété de ses actifs qu'elle a achetés il y a quelques années, parce que sa fille Marine a un projet immobilier et elle veut financer et veut l'aider en filant un coup de main. Donc on va faire un acte de donation-partage, c'est-à-dire qu'on va allotir à chacun des enfants un certain nombre d'actifs. Et chacun des enfants pourra avoir l'usage qu'il veut de cet actif. Donc Marine va faire le cash-out de son Bitcoin. Du coup, elle va effacer les plus-values qu'aura potentiellement eu sa mère et va pouvoir utiliser l'argent pour financer son acquisition. Mmh. On aura une traçabilité parfaite du bien, puisqu'on aura un acte de transmission de propriété, donc ce sera son titre de propriété de Bitcoin, et donc au niveau LCBFT, parce que ça c'est aussi important, on pourra tracer l'origine correcte des actifs. Et puis Enzo, il veut pas faire un achat immobilier, lui il veut voyager. Donc, en fait, quel que soit l'usage qu'auront les enfants, ils auront été traités de manière égalitaire au moment de la transmission. Ils n'auront plus de compte à se rendre plus tard au moment du décès. Donc ça, c'est un avantage hyper important, parce que à vouloir parfois faire l'économie de frais d'actes en transmettant comme ça, parce qu'en plus sur les cryptos, c'est plutôt simple de pas vouloir déclarer, mais en fait, ça peut être une bombe à retardement plus tard sur l'usage des actifs.
C'est intéressant parce que vous commencez à voir l'ampleur du phénomène dans votre profession de notaire, des cas qui doivent vous arriver tous les jours, des cas nouveaux à gérer. Il vient d'être créé l'Institut notarial des actifs numériques. Ce qui est intéressant, ça veut dire que la profession de notaire, par qui on est obligé de passer justement pour ces successions de ces actifs numériques, est en train de se structurer, de s'organiser pour répondre à toutes les questions sur ce sujet.
Exactement. Donc, l'Institut notarial des actifs numériques, ou l'INAN, c'est l'acronyme choisi, a pour objectif en fait de mutualiser des pratiques. Alors c'est pas un institut de formation, hein, c'est plutôt on a identifié qu'il y avait pas mal de notaires en France qui avaient pratiqué sur un sujet succession, ouais, sur un sujet transmission, mais savaient pas trop qui vers se tourner pour partager d'une problématique. Et l'idée, c'est voilà, c'est pouvoir s'identifier, se réunir et partager ses expériences pour avoir un espèce de guide des bonnes pratiques, pour justement élever le niveau de compétence pour que chacun des concitoyens français en France, où qu'il se situe, puisse être accompagné sur une problématique liée aux actifs numériques.
Vous m'avez dit en préparant cette émission qu'il y avait eu énormément de demandes de notaires,
ouais,
pour ça.
Ouais.
Ça veut dire que le sujet revient, hein, de plus en plus.
Ouais, c'est on se rend compte que c'est un sujet qui est important, qui est les stades de la danne, hein, 1 Français sur 10.
Ouais.
Et quand on a voulu identifier ces notaires, on a eu plus de 300 contacts de notaires titulaires ou diplômés notaires qui étaient partants sur ce type de ce projet INAN. Donc, il y a quelque chose qui peut se passer.
Il y a quelque chose qui peut se passer, on en a tous besoin, c'est certain. J'ai relevé une question dans les commentaires LinkedIn où vous avez annoncé la création de cet institut. Il y a quelqu'un qui mettait: quel intérêt pour un actif numérique de passer par un notaire alors qu'on transmet un actif par un simple virement? C'est vrai que c'est une question, on se dit on peut faire un virement, tout est fait. Pourquoi j'aurais besoin de passer par un notaire pour régler cette question-là?
C'était la donation partage à Marine ou à l'autre enfant qui n'auront pas les mêmes objectifs. Donc du coup, le contrat va permettre justement d'établir les règles du jeu, la manière dont chacun des enfants pourra avoir l'usage, par exemple, de ses actifs,
ouais,
pas faire n'importe quoi. Et là, on n'a pas encore parlé de la nue propriété, mais ça fera l'objet sans doute d'une autre discussion, parce que là, il y a un gros sujet aussi intéressant.
Avec grand plaisir. On doit parler aussi de réglementation avec Julie Bader. Et d'ailleurs, vous allez rester branché, hein, Jonathan, parce qu'on va parler de MiCA et de cette deadline, 1er juillet prochain, et cette obligation finalement d'avoir cet agrément MiCA pour tous les acteurs du secteur. On approche vraiment de la date fatidique, les dossiers sont en train d'être bouclés, les derniers dossiers, mais il n'y a plus grand chose à faire là, on ne peut pas commencer une démarche maintenant. Hein.
Alors, en tout cas, si on est un PSAN qui fournissait des services sur cryptoactifs auparavant, la deadline, c'est le 31 mars. Donc, il reste une semaine déposer le dossier.
Voilà. Ça, c'est fait, effectivement. Sachant qu'il y a un très gros délai pour répondre et surtout pour remplir le dossier, n'est-ce pas?
La préparation du dossier met du temps. C'est aussi les discussions avec les autorités qui vont mettre du temps pour bien expliquer le projet. Donc, plus le dossier est mieux préparé et qui prend un peu de temps, effectivement, avec de la mobilisation des équipes, plus on va réussir à passer rapidement le dossier auprès des autorités.
Votre cabinet, hein, s'est beaucoup spécialisé, hein, dans cette partie-là, effectivement. Est-ce que tous les acteurs sont soumis aux mêmes règles? Les start-up, les acteurs établis dans la finance traditionnelle? On a cru comprendre que non, ça aurait été trop simple. Hein.
En fait, il y a tous les acteurs qui souhaitent fournir des services sur cryptoactifs, qui soient entrants sur le marché ou non, doivent obtenir un agrément PSCA, donc MiCA. Mais le règlement a permis aux institutions financières traditionnelles une passerelle plus rapide qui permet d'obtenir l'agrément MiCA plus facilement. Donc, c'est la procédure article 60 du règlement MiCA. Nous, on a été le cabinet qui a accompagné la première banque française à obtenir cet agrément simplifié, donc la Banque de Lubac. Et c'est une vraie opportunité pour les institutions financières. Elles peuvent obtenir cet agrément fournir des services sur cryptoactifs beaucoup plus facilement qu'un nouvel entrant, effectivement, qui va devoir fournir un dossier complet MiCA.
J'ai envie de vous demander, sans qu'on entre dans les détails, Jonathan, ce petit plaisir auquel vous participez depuis plusieurs mois à remplir ce dossier, on peut dire quand même que pour les acteurs du secteur, c'est quand même pas un moment facile, hein.
Bah, c'est clair. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas avec vous en plateau aujourd'hui, Sandra. Et évidemment, je m'en excuse parce que, comme vient de le préciser votre collaboratrice sur le plateau, moi, je suis à fond dans MiCA depuis plusieurs mois. Il y a déjà eu, évidemment, plusieurs discussions avec le régulateur depuis plusieurs mois, hein. Donc là, en fait, on est sur la finalisation du dossier qui va être déposé là dans les prochaines semaines. Mais de manière plus globale, effectivement, je pense que ça partait évidemment de la faillite d'FTX, on s'en rappelle, où effectivement il y a eu toute une paranoïa suite à ce scandale. Après, c'est vrai qu'on peut rediscuter de la proportionnalité par rapport à des petites boîtes versus des grosses boîtes, où là, je pense qu'il y aurait quand même un certain nombre d'éléments à repenser de mon point de vue. Et je crois d'ailleurs qu'il y a d'ores et déjà des discussions sur un MiCA 2 qui sont en cours, pour peut-être ajuster certains éléments qui pourraient justement permettre à des nouveaux entrants, en tout cas, de proposer un dossier, sachant que évidemment nous, on a quand même la chance d'avoir 5 ans d'historique. Évidemment, on est déjà régulé par l'AMF et par l'ACPR, donc en fait quelque part on est déjà connu du régulateur, donc ce qui facilite globalement le dépôt de notre dossier. Mais effectivement, pour un nouvel entrant, c'est quasiment mission impossible si vous n'avez pas plusieurs millions d'euros de fonds propres et si vous n'êtes pas une banque, quoi. C'est la réalité des petites boîtes aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Il y avait des conditions quand même assez drastiques, assez précises. On a entendu, on en a parlé aussi sur ce plateau, Julie, à un moment, quelle était la position de la France par rapport à ses voisins européens, justement, dans la facilité d'obtention cet agrément MiCA, au final?
L'agrément MiCA, il est européen. Donc, en fait,
Mais il y en avait plus qui étaient délivrés dans certains pays, plus rapidement.
Je suis d'accord avec ça. Mais effectivement, l'AMF et la France ont un historique. Elle a été précurseur dans la réglementation sur les actifs numériques. Et effectivement, ils ont un peu plus de connaissances aussi que nos confrères. L'AMF, elle a une position où les dossiers sont regardés sérieusement. Elle demande effectivement des garanties importantes. Mais pour répondre, on parlait de la détention du Bitcoin, des cryptoactifs. Si des prestataires vont détenir pour vous des cryptoactifs, il est important qu'ils soient régulés et qu'il y ait des règles élevées de sécurité en matière informatique et en matière de contrôle interne et de LCBFT dont on a parlé.
Est-ce que ça va d'ailleurs peut-être renforcer la crédibilité de ceux qui ont eu leur agrément
Bien sûr.
France, une fois qu'ils l'auront? Alors là, pour le coup, ils seront quand même couverts d'une certaine dose de crédibilité.
Exactement. Nous, c'est ce qu'on prône aussi au sein de notre cabinet avec l'équipe qu'on a formée avec Anne Maréchal. C'est obtenir son agrément en France, c'est choisir son régulateur dans la durée, c'est pas uniquement l'obtention de son agrément, c'est gage de sérieux et c'est effectivement une garantie complémentaire pour les investisseurs, puisque l'autorité des marchés financiers et la CPR qui vont surveiller les agréments et surveiller les acteurs sont des autorités extrêmement sérieuses.
Pour aller un peu dans le détail, on a aussi parlé de ce rapprochement entre la finance traditionnelle et la finance on-chain. On a parlé notamment de double ou triple agrément. C'est quoi exactement ça, Julie?
Et c'est vrai que du côté avocat, en tout cas nous, on reçoit les projets à leur genèse, en fait. Donc, c'est vrai qu'on voit un petit peu les tendances qui se passent dans le marché de la finance et de la finance on-chain. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les acteurs de la fintech ou les acteurs traditionnels vont aller vers une convergence des services pour à la fois fournir des services sur cryptoactifs, des services traditionnels bancaires, des services financiers. Et pour ça, effectivement, il faut obtenir plusieurs agréments. Et nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On crée des groupes financiers qui cherchent à obtenir 1, 2 ou 3 agréments pour pouvoir fournir un service complet, en fait, aux investisseurs et plutôt que de séparer, en fait, entre différents acteurs.
Pour aller plus loin et pour conclure sur ce sujet, c'est réellement, ces agréments le disent, hein, la blockchain qui révolutionne l'ensemble de la finance et qui va peut-être aider à rapprocher ces deux mondes-là. au final.
Exactement. Oui, oui, nous, c'est ce qu'on voit. C'est aussi ce qu'on encourage. On appelle toutes les institutions bancaires traditionnelles à aller sur la crypto. Elles y vont. Nous, on accompagne, effectivement, Banque de Lubac, on en a parlé, mais d'autres institutions financières qui s'y mettent. C'est le chemin que prend la finance. Et il y a une vraie convergence entre les deux. Nous, la blockchain, on ne le voit pas uniquement du côté crypto-actif aussi. On voit tout ce qui est la tokenisation, donc plus la révolution dans la finance par cette nouvelle technologie qui permet une liquidité plus importante, une transmissibilité plus importante et une confiance plus importante dans ces actifs.
Avec un risque, on en a déjà parlé ici, c'est finalement le revers de la médaille d'atteindre l'âge adulte pour le secteur. Jonathan, vous aurez le mot de la fin, c'est qu'il va y avoir des acteurs, beaucoup d'acteurs qui vont disparaître.
C'est vrai que ça, c'est encore une fois peut-être le bon ou la mauvaise chose de cette histoire, c'est qu'il y aura une recomposition sectorielle à partir du 1er juillet. Ça va forcément rebattre les cartes et certains vont profiter. Évidemment, il y aura une réallocation des parts de marché. Donc évidemment, nous, c'est ce qu'on nous souhaite pour Stackinsat et les survivants de ce MiCA. Mais voilà, encore une fois, il faut... Je pense que le régulateur, peut-être l'ADAN aussi, puisse peut-être envisager d'alléger un certain nombre de contraintes pour encore une fois essayer de propulser un peu plus de concurrence dans cet écosystème qui a besoin d'innovation et qui a besoin de nouveaux entrants pour encore plus innover de mon point de vue.
Merci beaucoup à tous les trois d'être revenus sur ces sujets. Jonathan Erskovici, depuis Biarritz, fondateur de Stackinsat. Merci d'avoir été avec nous. Julie Bader, avocate chez De Gaulle. Florence et Gwendal Texier, notaire et membre de la commission numérique des notaires de l'Ouest. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été dans cette émission. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Bel après-midi sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.